mercredi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beur FM.
Dessus de table, l'émission qui mange le morceau. Bonjour, bienvenue, bon week-end, ravi de vous retrouver avec Manuel Mariani. Bonjour Manu.
Bonjour Philippe, comment ça va aujourd'hui?
Très bien, critique gastronomique et en termes de morceaux, vous en connaissez un rayon. Hein.
Oh ben on essaye.
Hein, pour cracher le morceau. Émission que nous allons consacrer aujourd'hui. Alors ça c'est pas bien ce que vous faites Manu, vous profitez que le docteur Alain Delabeau soit pas là pour consacrer une émission aux produits laitiers et au fromage.
Ouais, je réglerai mes comptes avec lui.
Voilà, le fromage, le docteur Delabeau est pour, mais le lait.
Il aime
et
pas,
les produits
il aime pas ça.
Ah, il n'aime pas
ça.
Du tout ça, le doc. Non. Bien, nos invités, Manu.
Alors, ben, aujourd'hui, on est avec O.L. Jégo. Alors, O.L. Jégo, que j'ai connue, moi, quand elle était attachée de presse, hein, parce qu'elle s'occupait de clients dans le domaine de la gastronomie, entre autres, du lifestyle, on peut dire, en général, oui, hein, tout ce qui est art de vivre.
Oui, le food, tout en général.
Voilà, mais qui a sauté le pas aujourd'hui. Hein, qui est devenue restauratrice. Alors, je ne sais pas si on peut dire restauratrice, parce que vous
n'êtes rien. Entrepreneuse.
Entrepreneuse, voilà. Lactopreneuse.
Oui, entre autres.
Hein, vous venez de créer un. Alors, pas un restaurant vraiment, mais un coffee shop hein, qui s'appelle Lactem.
Oui, c'est ça. C'est un tout petit coffee shop très cosy, très cocooning. Voilà.
Lactem, c'est du latin.
Exactement, c'est du latin qui veut dire lait.
Lait.
Voilà, alors, vous ne faites pas que du lait. D'origine animale, hein, vous faites aussi, alors ce qui ne sont pas vraiment des laits, qui sont des jus, hein, des
ouais, maintenant,
de noisettes, d'amandes, etc. Ouais.
Maintenant, on appelle ça boisson végétale.
D'accord.
Ce que je trouve un peu bizarre, parce que le lait d'amande, c'est ancestral, donc je trouve ça dommage qu'on perde ça. Mais
après, c'est juste une question pour être précis. Le lait d'amande, c'est pas du lait, mais on peut l'appeler lait d'amande.
Oui, c'est pas du lait parce qu'il n'y a pas de lactose. Mais après, c'est du lait parce que c'est une bonne alternative au lait pour les recettes, pour les boissons,
voilà.
Pour tout ça.
Oui, puis il y a peut-être aussi le fait de vouloir répondre à une demande un peu tendance qui est de consommer
ouais,
moins de lactose.
Au-delà de la tendance, je pense qu'on peut réussir à démocratiser un peu toutes ces boissons. On a l'habitude de boire son café avec du lait de vache. Pourquoi pas le boire avec du lait de riz, ce qui paraît étrange pour
alors,
certaines personnes.
Alors, du lait
personnes.
De riz.
De la boisson de riz.
Mais qu'est-ce
riz.
Que c'est? Racontez-nous ce que c'est que le lait
le
de riz.
Le lait de riz, en fait, ouais. C'est du lait, c'est de l'eau qui est mélangée et mixée avec du riz.
Comme
l'amande,
hein.
Du riz cuit, oui. Comme l'amande qui est mixée avec de l'eau. Enfin, voilà, c'est très simple de faire du lait. Encore plus simple que d'avoir... C'est plus simple aujourd'hui d'avoir du lait végétal que du lait de vache. Donc, enfin... En termes de création, je veux dire. Et donc, c'est juste une manière de démocratiser cette consommation, sans pour autant être à l'encontre du lait de vache, parce que moi, j'adore ça, même si, bon, j'ai ouï dire que c'est pas forcément bon pour la santé.
Ah, vous avez écouté le docteur Delabeau, vous, alors?
J'ai lu plein de choses qui se rejoignent, et c'est vrai que c'est pas forcément bon pour le corps, le lait. Après, c'est bon au goût, un bon cappuccino.
Non, mais c'est ça qu'il faut expliquer. C'est que si les gens aiment ça, ben, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Voilà, si... Parce qu'au goût, c'est bon, effectivement.
Non, mais je voudrais rappeler quand même que le lait contient, outre plein de bonnes choses, mais le lait contient aussi du calcium, qui est essentiel à la croissance des enfants.
Oui, mais tout aliment
c'est bon
contient
pour la santé des adultes,
tout bon
voilà.
Nutriment, non, nutriment qu'on peut retrouver dans d'autres...
Voilà. Le calcium, il n'y en a pas que dans le lait.
Non, voilà. Je suis pas naturopathe, donc malheureusement, je peux pas m'engager sur ce genre de sujet en profondeur. Mais je pense qu'on peut trouver une alternative. Après.
Alors, par exemple, quelles sont les alternatives au lait de vache que vous trouvez? Vous avez parlé du lait de riz, par exemple, du lait de noisette.
Ouais.
Lait d'amande.
Le lait de coco. Le lait d'amande, le lait de noisette, le lait de soja. Il y a vraiment des choix, enfin, c'est incroyable. Et puis, ça a des textures et des goûts tellement différents que je trouverais ça dommage de passer à côté.
Voilà. Moi, je me fais... Là, on est sur l'aspect, effectivement, gustatif. Moi,
ouais.
je parlais, effectivement, en termes de santé. Bon, c'est vrai que,
de nutriments,
comme le rappelait Philippe, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le docteur Delabeau sur les bienfaits ou non du lait, mais c'est vrai que bon je pars du principe que les gens qui se disent intolérants au lactose, c'est pas le lactose qui leur fait du mal, qui les rend intolérants, c'est plutôt toutes les cochonneries avec bourrées de pesticides que mangent les vaches. Après ça c'est un
domaine tellement enfin on entend tout et rien en même temps à la fois. je pense que ce qui est important, c'est de ne pas être dans l'excès. Même pour le lait végétal, en fait, il ne faut pas être dans l'excès. Le lait de coco, c'est tellement riche que... c'est tout. Il faut,
on fait même du beurre de coco aussi.
On fait du beurre de coco, on fait de l'huile de coco, on fait des choses incroyables avec le végétal. Et c'est juste que je pense que...
Et aujourd'hui, en parlant de coco, s'il y a une boisson qui devient très très à la mode aujourd'hui et qui est énormément consommée, c'est l'eau de coco.
Oui. Oui, mais ça, c'est un sujet différent du lait.
C'est pas le lait de coco, mais c'est l'eau de coco. En ce moment, elle explose.
Oui, parce que le lait de coco, en fait, qui effectivement n'est pas un lait non plus, qui est un espèce de jus, c'est le lait de coco qui est mixé avec la chair de coco.
Voilà. Alors que l'eau de coco, c'est ce qu'on trouve dans
le coconut, à l'intérieur de la noix.
À l'intérieur. Donc, ce sont deux choses un peu différentes. Bon, mais moi, en fait, j'ai ouvert Lactem parce que je trouve ça intéressant de pouvoir avoir le choix de trouver un équilibre et justement de pas être dans l'excès de toute cette consommation. Donc le lundi, on va prendre son petit cappuccino lait de vache pour se réconforter parce que c'est le début de semaine. Ah, le mardi,
c'est bon, un bon cappuccino, c'est très bon ça.
Ah, c'est incroyable. Enfin, moi j'adore la mousse, c'est tellement gourmand. Le mardi, on va prendre son petit latte au lait de noisette. Le mercredi, voilà, c'est une façon de pouvoir équilibrer aussi et de pouvoir ne pas être dans l'excès. Parce que.
Non, puis de varier les goûts aussi.
Et de varier les goûts et de varier les textures et de varier son alimentation, c'est important.
Alors, et chez Lactem, dans la cuisine, il y a des pâtisseries qui vont avec, comme tout coffee shop. Donc, il y a du beurre, il y a de la crème, il y a des.
Il y a tout ce qui est bon pour les fesses. Voilà. Il y a aussi, par exemple, je fais cuire et j'ai des plats du jour. Bon, c'est sans prétention, hein, vraiment, c'est comme à la maison. Par exemple, hier, j'ai fait un plat à base de riz qui est cuit dans du lait de coco. Et avec des petites patates douces grillées au four et puis du poulet. J'essaye de mettre un peu de lait végétal, de lait, de crème, de fromage un peu partout. Enfin, j'aime bien, moi, je trouve que...
Oui, pour rester dans la thématique Lactem.
Voilà, exactement. À 100%. Exactement. Mais en même temps, on arrive à trouver un équilibre parce que ce sont des aliments différents, quoi.
En fait, vous réconciliez les avec et sans lactose.
Voilà. Je suis pour tout, moi. Du moment que c'est bon.
En tout œcuménisme.
Ouais.
Voilà, non, mais c'est bien de ne pas opposer les anti et les pour.
Alors, aujourd'hui, vous êtes venu avec un cake, mais pour le coup, il n'y a pas de lait dedans.
Oui, justement, je trouvais ça amusant.
De prendre le contre-pied.
C'était une petite provocation. Voilà.
Et il faut, c'est bien.
J'ai mis du. Je dis boisson végétale parce qu'on ne peut plus dire lait. J'ai mis de la boisson végétale dedans, de l'huile de coco. Voilà, il n'y a que du végétal.
Bon, Manu, quelle est l'origine des produits laitiers?
Alors, le lait, c'est un des je vais parler de... Il y a le lait et les produits laitiers. Hein. Donc, le lait, c'est ce qui sort d'un animal, hein, Philippe, donc un bovin, un ovin. Et puis, les produits laitiers, c'est les produits qui dérivent de ce lait. Alors, le lait, c'est un des aliments les plus anciens de l'histoire de l'homme. Et donc, quant aux produits laitiers, donc, comme je le disais, c'est-à-dire les aliments qui sont obtenus à partir d'une transformation naturelle ou pas du lait, on en trouve les premières traces il y a très longtemps, c'était à l'ère du néolithique, Philippe. Alors, au départ, on domestiquait des animaux dont on consommait simplement le lait, mais les produits laitiers, c'est-à-dire dérivés du lait, ils sont nés plutôt du fait du hasard. On s'est par exemple aperçu qu'en laissant le lait à température ambiante, il se mettait à fermenter, à cailler naturellement au bout de quelques jours. C'est donc là que sont nés les ancêtres du lait ribot ou du Lben que vous connaissez, Philippe. Hein. C'est lait caillé, c'est lait fermenté. Donc ça, c'était simplement la transformation naturelle du lait, qui n'était à l'époque évidemment pas ni pasteurisé, ni bouilli, ni autre, et qui se transformait naturellement, qui devenait un petit peu aigrelet comme ça et qui caillait, et dont on fait des boissons délicieuses. Alors après, plus tard, pour transporter le lait, parce que évidemment les peuples étaient souvent nomades, pour transporter le lait, on n'avait pas de récipient à l'époque, hein, on maîtrisait pas encore la poterie, ce genre de choses. Donc on récupérait les estomacs des animaux qu'on avait tués. Et oui, absolument, je vois Oel faire la grimace. Et donc, on mettait le lait dedans et on le transportait comme ça. Et dans ces estomacs, qui étaient des panses, en fait, naturelles, hein, qu'on nettoyait, qu'on séchait, mais ce n'était pas toujours très bien nettoyé, il restait des petites enzymes, hein, qu'on appelle la présure. Et les humains de l'époque se sont aperçus que le lait subissait encore une autre transformation que le caillage naturel. Et c'est là, c'est comme ça qu'on a découvert le fromage, en fait, tout simplement. C'est le lait qui s'est mis à cailler, à se transformer dans ces panses dont on se servait pour transporter le lait. Et puis, toujours pour des raisons naturelles et chimiques, sous certains climats, le lait caillé, il développait aussi certaines moisissures qu'on donnait des fromages à pâte persillée. C'est comme ça qu'est né plus ou moins les fromages type bleu, roquefort, etc. Donc c'est vraiment souvent le fruit du hasard. C'est assez intéressant de voir comment ça a évolué. Et puis je l'ai pas vérifié parce que j'ai pas trouvé énormément de sources, mais j'avais entendu effectivement une anecdote comme quoi le beurre, c'était effectivement ces produits qu'on transportait dans des panses ou dans des contenants et qu'on transportait à dos d'âne ou à dos d'animaux. Et puis avec le mouvement, ça faisait un effet de baratte un peu. Et c'est incroyable. Comme ça qu'on s'est aperçu qu'il y avait du beurre. Et puis quand on a découvert le sel aussi, on se servait du sel pour conserver les aliments. Donc on a essayé de conserver ces laits caillés, tout ça. Et c'est là qu'on a inventé des fromages, en fait, avec le salage, le caillage, etc. Donc tout ça, sont des accidents de l'ère humaine, de l'ère gastronomique humaine qui ont donné naissance à tout ça.
Les meilleures choses, généralement, sont des accidents. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'anecdotes comme ça où les grands chefs ou autres ont fait des choses par accident aussi. Donc,
absolument, il y en a beaucoup. La sauce béarnaise, la tarte tatin et quelques autres. Oui.
Voilà, et c'est Stamen Grigorov, qui est un jeune chercheur bulgare, qui a découvert la bactérie qui donne l'acidité au yaourt.
Oui, qui a mis en évidence ça, oui. Voilà, les ferments lactiques, tout simplement. Oui.
En 1905. Ouais. D'ailleurs, Manu, vous savez comment on fait le beurre à la maison ?
Ah bah oui, absolument.
Tout à fait sérieusement.
Vous voulez que j'explique ça ?
C'est rapide, Philippe, c'est super rapide.
Ah, c'est très rapide. Ouais. Et c'est un truc, vous pouvez le faire à la maison avec les enfants, c'est hyper sympa. Et puis les enfants sont super fiers quand ils fabriquent quelque chose eux-mêmes. Vous allez pouvoir, avec vos enfants, fabriquer du beurre à la maison. Alors comment on fait ? C'est très simple. On prend du lait, alors si possible du lait cru, hein. Non pasteurisé et du lait entier surtout, hein, parce qu'il faut qu'il y ait de la matière grasse, puisque le beurre, c'est la matière grasse du lait. Et vous savez, Philippe, dans les petites bouteilles d'eau, comme vous avez devant vous d'ailleurs, les petites bouteilles d'eau de 50 centilitres
en plastique.
Avec des petits stries autour. Attention, les petits stries sont très importantes. Vous remplissez cette bouteille d'eau, vous la videz évidemment, vous la séchez bien, et vous la remplissez à moitié de lait entier. Si possible,
faut qu'il y ait du vide, quoi.
Si possible, du lait cru, faut qu'il y ait du vide.
Moite.
Et puis, vous allez agiter la bouteille. Vous allez refermer la bouteille, évidemment, avant de l'agiter. C'est préférable si vous voulez parpaindre les murs. Et vous allez l'agiter comme ça, 3, 4, 5 minutes avec les enfants. Alors, vous changez de main quand vous êtes fatigué.
C'est comme Orangina. Hein. Faut toujours secouer Orangina.
Absolument.
Donc, la même chose avec le...
Et au début, ça va faire glou-glou. Puis, au bout d'un moment, vous allez vous apercevoir que ça fait plus trop glou-glou, mais ça commence à faire toc-toc. Ça fait toc-toc parce qu'il y a une boule de beurre qui se forme à l'intérieur. Et en fait, vous aviez simplement dans la main une baratte, mais vous ne le saviez pas. Voilà, et vous, alors, ce qui est très simple, alors ça après, vous le mettez dans un linge propre, vous l'essorez un petit peu pour enlever
Comment vous le faites sortir de votre bouteille, Manu, votre
Il faut la découper.
Ah, voilà, il faut découper la bouteille.
Absolument,
hein, voilà, il faut découper la bouteille en plastique.
Voilà, alors vous pouvez le faire aussi en plus grande quantité dans des plus grandes bouteilles, mais ça, c'est plus simple c'est mieux pour les adultes parce que la grande bouteille, il faut la remuer assez longtemps, Philippe, et ça prend un peu plus de temps, ça fatigue le poignet, donc, mais vous pouvez en faire des plus grandes quantités.
Alors, est-ce que économiquement, ça vaut le coup de le faire soi-même ou c'est peut-être moins cher d'acheter du beurre ?
Gustativement, surtout. Alors, si vous achetez un très bon beurre chez un crémier, par exemple, il va coûter un certain prix. Si vous faites ça à partir de lait cru entier, vous allez avoir un tarif à peu près équivalent au très bon beurre de chez le crémier. Mmh. Par rapport au beurre industriel, pasteurisé, etc., non, ça coûte quand même un petit peu plus cher. Mais l'avantage, c'est que quand vous faites ça, vous pouvez après ajouter dans votre beurre, je sais pas, du sel au piment d'Espelette, par exemple, ou du cumin. Des petites herbes, et vous fabriquez un beurre personnalisé. C'est très sympa. En plus, aujourd'hui, il pleut, donc amusez-vous à faire ça cet après-midi avec vos enfants. Et ça va les occuper, et c'est super sympa.
Bien, on fait du beurre ce week-end. C'est Manu qui vous a donné la recette. Dans un instant, nous allons parler de la fête des AOP laitiers, puisque la semaine prochaine, c'est la fête des AOP laitiers. Et vous pourrez donc participer à cette manifestation.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Dessus de table, l'émission qui mange le morceau avec Manuel Mariani, critique gastronomique. Notre invité, c'est OL Gégo. Vous êtes jeune restauratrice. Et la semaine prochaine, Manu, c'est la fête des produits laitiers à OP.
Ah oui, tout à fait. Sur le parvis de l'hôtel de ville, Philippe, à Paris, donc du 16 au 18 novembre, le CNIEL, qui représente la filière laitière française, et le CNAOL, qui est le Conseil national des appellations d'origine laitière, donc tout ce qui est AOC, AOP, etc., organise la fête des AOP laitières. Alors c'est un événement qui est gratuit, qui est en accès libre. Les visiteurs vont pouvoir découvrir et déguster les 50 fromages, beurre et crème d'appellation d'origine protégée qui leur seront présentés par les producteurs et artisans de la filière. Alors justement, on a au téléphone Dominique Chambon, qui est le président de l'AOP Rocamadour. Ça, c'est très bon, le Rocamadour, hein, les petits crottins de chèvre comme ça. Et puis, qui est actuel président du CNAOL, donc le fameux Conseil national des appellations d'origine laitière. Bonjour Dominique Chambon.
Bonjour.
Alors, allô ?
Oui, vous m'entendez bien ?
Oui, on vous entend.
Bien. Alors, par contre, si vous avez le haut-parleur, je veux bien que vous l'enleviez, Dominique Chambon.
Non, j'ai pas de haut-parleur.
Bon. Ou le kit main libre. Bien.
Oui, alors, Dominique Chambon, donc, j'étais en train de parler effectivement de cette opération sur la fête des AOP laitières. Alors, c'est en accès libre, les gens pourront venir déguster des produits AOP exclusivement, mais également voir un petit peu la traite, la fabrication des fromages, des crèmes, etc.
Bien sûr. Alors, c'est un grand rendez-vous qui est proposé par les producteurs de fromage de tous les terroirs de France.
AOP exclusivement, on est d'accord, hein ?
Exclusivement AOP.
D'accord.
C'est quoi la différence entre AOP et AOC, en fait ? Parce que moi, je pense que
Alors, l'appellation d'origine contrôlée, ça n'existe plus aujourd'hui. C'est une reconnaissance uniquement française, je dirais, de ce concept.
Donc, les AOC sont devenus des AOP, c'est ça ?
Oui. Voilà, tout à fait.
Donc, c'est la même chose, sauf que c'est européen.
Il faut parler d'appellation d'origine protégée.
D'accord.
Et c'est le concept d'AOC franco-français qui a été reconnu par Bruxelles.
D'accord.
Et élargi à tous les pays, d'ailleurs, de la communauté européenne.
D'accord. Donc, quand on parle de produits laitiers de France, ça concerne combien d'AOP ?
Alors, c'est 50 fromages, beurre ou crème.
Oui, alors les beurres et les crèmes, c'est marginal. Il y a combien de beurre et de crème ? Il y a 3 beurres et 2 crèmes, c'est ça, de mémoire ?
Oui, c'est ça. Et des produits donc, qui vont être présentés à la dégustation aux consommateurs parisiens avec une série d'animations, de dégustations gratuites. Le savoir-faire aussi, une démonstration de savoir-faire, de fabrication de produits. Une animation, pleine d'animations ludiques pour toute la famille. Il y aura même des mini-tracteurs hein, sous forme de petits kartings.
Oui, de cartes à pédales, hein, on pourra faire la course, voilà. des courses de tracteurs, c'est ça ?
Avec des petits circuits dessinés avec des ballots de paille. C'est un grand nombre d'animations justement pour promouvoir ces produits et inciter à la découverte. Et à la découverte de cette grande diversité de produits qui font la richesse de la France en fromagère.
Bah alors vous y serez, Dominique Chambon ?
Bien sûr.
Est-ce que vous venez avec des biquettes ou vous amenez que du fromage ?
On n'amène que du fromage, c'était compliqué de déplacer des chèvres sur le...
Oui, c'est pas le salon de l'agriculture, quoi.
Sur le parvis de l'hôtel de ville, on donnera rendez-vous au salon de l'agriculture. Là, les chèvres seront présents.
Alors, expliquez-moi, parce qu'on parle toujours de la France comme le pays des 300 fromages.
Effectivement.
Il y a même un proverbe très célèbre qui dit ça. Donc, comment est-ce qu'on en retrouve 45 qui sont des AOP ?
Les AOP, c'est l'histoire, c'est l'expression même du terroir, je dirais. Et c'est des produits qui sont ancrés localement, qui sont le fruit de savoir-faire originaux, ancestraux, et qui ont été souvent des savoir-faire transmis de génération en génération, et qui ont fait l'objet d'un décret d'appellation d'origine, d'abord contrôlé et ensuite protégé.
D'accord. Donc, en gros, quels sont les fromages qui bénéficient de ce titre d'AOP ?
Ben, la plus grande appellation française, c'est le Comté. Mais vous connaissez le Crottin de Chavignol, vous connaissez Abondance, vous connaissez Roquefort.
Ouais, vous pouvez citer le vôtre aussi, le Rocamadour, hein, quand même.
Ben, le Rocamadour, bien sûr, oui. Mais beaucoup de produits, le Cantal, le Salers, le Saint-Nectaire, etc., qui sont des produits, le Roblochon également, le beurre de Bresse, la crème d'Isigny, etc. Je ne peux pas tous les citer.
Alors,
ce sont des produits emblématiques de nos terroirs et qui génèrent une économie souvent dans des régions défavorisées sur un plan agricole et qui correspondent à des savoir-faire traditionnels.
Oui, ça permet souvent à des campagnes de vivre des produits locaux. Alors, moi, je voulais vous poser une question, Dominique Chambon, parce que bon, moi, je suis un fervent défenseur des produits français et de l'artisanat français à tous les sens du terme. Et c'est vrai que dans les produits que vous avez cités, hein, ces AOP, il y en a beaucoup qui sont lait cru. Et bon, votre opération, elle bénéficie du soutien de l'Union européenne. Cependant, on sait que Bruxelles a toujours pour projet d'interdire les fromages au lait cru au sein de l'UE un de ces jours. Est-ce qu'il y a pas un petit quelque chose d'un peu antinomique là, parce que c'est vrai que le c'est quand même une des grandes spécificités des fromages de la plupart des fromages français, le lait cru.
Ben aujourd'hui, 75% des appellations sont lait cru. Effectivement, l'histoire nous a quelquefois amené à ne pas avoir que du lait cru dans les appellations d'origine. Mais aujourd'hui, c'est une tendance lourde des consommateurs qui demandent et qui souhaitent avoir du lait cru, et c'est quelquefois contraire à des exigences sanitaires, mais les producteurs ont pris conscience de cette nécessité, effectivement, d'élaborer ces produits au lait cru et travaillent de plus en plus sur ce qu'on appelle l'amont de la production, c'est-à-dire l'élevage,
la traçabilité,
les conditions de production, qui fait qu'effectivement, on est à même aujourd'hui de proposer de plus en plus des produits au lait cru à nos consommateurs. Alors, l'Europe reconnaît effectivement, au travers des appellations d'origine, notre travail sur les fromages au lait cru, et la France est leader dans ce domaine-là.
Mais là, est-ce qu'il y a des débats, des discussions avec eux au niveau des interprofessionnels, justement, pour retarder ou même mettre un terme à cette espèce de on appelle ça dans la presse un marronnier, parce que ça revient tous les ans, hein, ça refleurit tous les ans,
c'est plus
d'actualité pour vous.
Aujourd'hui, on sait, on connaît les valeurs des produits au lait cru. On sait que le lait cru a des vertus, et ces vertus-là, elles sont en passe d'être démontrées par le corps médical, par exemple, mais aussi par les consommateurs qui tiennent, qui sont attachés à ces produits et qui les font vivre en les achetant.
Mmh. Alors, à noter que le Rocamadour.
Oui, votre AOP, c'est un fromage au lait cru. Hein,
voilà, c'est du lait de chèvre.
Pour avoir l'AOP Rocamadour, c'est du lait cru, c'est du lait de chèvre cru, donc pas d'AOP s'il est pasteurisé. Hein.
Tout à fait.
D'accord.
Quel est le fromage qui est le plus vendu en France, préféré des Français?
C'est l'AOP Comté. Alors, en France, c'est la plus grande appellation. Hein,
c'est le Comté.
Presque 60 000 tonnes.
Wow.
Vous voyez, le Rocamadour, c'est 1300 tonnes.
c'est le grand écart, là.
Ouais, c'est bizarre, moi aussi, j'aurais dit camembert.
Enfin, en même temps, un crottin de Rocamadour ne pèse pas la même taille qu'une roue de comté. Hein.
Tout à fait, c'est un petit fromage de 35 grammes.
Et le gruyère, lui, n'est pas français, donc c'est pour ça qu'il n'est pas...
Suisse. Voilà, un gruyère est suisse, absolument.
Le gruyère est suisse, le gruyère est aussi français, c'est une appellation transfrontalière. En France, elle n'est pas AOP. En France, elle est IGP.
Oui, IGP, IGP, donc c'est...
Indication géographique protégée.
Voilà.
Donc les Suisses nous avaient pris un petit peu de vitesse pour faire protéger leur appellation. Mais le gruyère est aussi un fromage français.
Et vous m'arrêtez si je dis des bêtises, Dominique Chambon, mais la différence entre IGP et AOC, c'est que IGP, ça précise que ça a été fabriqué dans une région particulière, mais il n'y a pas de cahier des charges au niveau de la fabrication spécifique, alors que l'AOP, il y a un cahier des charges au niveau de la fabrication, hein, au niveau du processus de fabrication, de la façon de fabriquer un produit. Là, il y a des impératifs.
Il y a tout à fait ce différentiel-là. Il y a aussi le différentiel que toutes les étapes de la fabrication pour l'AOP doivent être réalisées dans cette aire géographique, alors que pour l'IGP, c'est pas nécessaire.
C'est-à-dire qu'un camembert qui serait fait ailleurs que dans la région ne pourrait pas s'appeler camembert.
Absolument pas. L'appellation d'origine, c'est camembert de Normandie AOP.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut s'appeler camembert si on ne met pas de Normandie, on peut s'appeler camembert ailleurs qu'en Normandie. C'est ça le problème.
Et parce que le camembert est un nom générique.
C'est le problème du brie aussi. Ouais,
du coup, quels sont les critères pour pouvoir s'appeler camembert?
Alors, OL Gégo, là, qui est avec nous sur le plateau, pose une question, Dominique Chambon. C'est donc, quels sont les critères, justement, pour pouvoir s'appeler camembert En fait, il n'y en a pas. C'est camembert de Normandie qui implique des critères spécifiques.
C'est là que Manu, vous posez les questions, vous faites les réponses. Vous êtes bien, Manu. On va vous couper le micro si vous
continuez de bavarder comme j'attends, ça.
C'est la réponse, effectivement. C'est tout à fait ça. L'appellation d'origine est réservée à des produits fabriqués en Normandie dans le cadre d'un cahier des charges très précis et du lait cru notamment.
Pareil pour les bleus et pour les bris, donc c'est ça. Hein.
Tout à fait, tout à fait. C'est le bris de Meaux qui est AOP ou le bris de Melun qui est AOP. Et, on a aussi ce problème-là, par exemple, sur Crottin de Chavignol où on peut avoir un crottin générique.
Alors, est-ce que ça signifie pour les auditeurs qui nous écoutent, Dominique Chambon, que si on est au supermarché et qu'on achète un morceau de brie, ou même chez son fromager, puisque les fromagers ne font pas forcément des AOP à 100% dans leur magasin, hélas, est-ce que ça veut dire qu'il faut bien vérifier qu'on a un brie de quelque chose, c'est-à-dire de Melun ou de Meaux, pour s'assurer de la provenance, parce que sinon ça peut être un brie qui vient de n'importe où, ou même de l'étranger?
Bien sûr, et c'est important de vérifier qu'il soit bien porteur de l'étiquette et du logo AOP, puisqu'on a un logo européen qui identifie nos fromages, et nos beurres et nos crèmes, et qui permet au consommateur de bien repérer le produit dans le rayon. Et il peut aussi interroger son crémier pour s'assurer que c'est bien un produit d'appellation d'origine protégée.
D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des labels bio aussi dans les fromages, dans les produits laitiers? Est-ce que c'est quelque chose qui se répand de plus en plus? Parce que c'est vrai qu'il y a...
Ça correspond à une demande consommateur. Et il y a effectivement des produits bio, AOP ou pas AOP.
Il y a aussi maintenant des fromages végétaux. Et je trouve ça aberrant, en fait. Parce qu'un bon fromage... qui vient de...
Avec du bon lait.
Avec du bon lait, c'est ça ne peut pas être comparable. On ne peut pas appeler un beurre végétal à base de noix de cajou. C'est pas... on sera déçu, en fait, au goût. Quand on mange du fromage, on s'attend à un certain goût. Et je pense que les gens qui mangent du fromage végétal sont déçus.
Mais d'ailleurs, moi, je suis un ayatollah des appellations, un petit peu quand même, et je trouve d'ailleurs anormal qu'on puisse appeler un fromage végétal fromage, tout simplement, déjà.
Oui, du coup, on revient au débat du lait, du fromage. Oui.
Je pense qu'on n'a pas le droit aujourd'hui de dénommer fromage un produit qui n'est pas fait à partir de lait.
Pour vous, c'est une forme de tromperie?
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Mais la réglementation est claire là-dessus.
Ah, c'est-à-dire
n'existe pas.
D'accord.
Non, c'est interdit, clairement.
C'est interdit, donc, d'appeler... par exemple, si demain, moi, je fabrique un fromage végétal, je le mets dans le commerce, j'ai pas le droit de l'appeler fromage.
Non, absolument pas.
Alors, c'est marrant,
on
en trouve à Paris, on trouve des boutiques de fromage végétal vraiment spécialisées là-dedans, donc...
Il y a un problème d'application de la loi et de...
Je pense pas que sur l'étiquette du produit, il puisse y avoir écrit fromage.
Bon, en tout cas, au niveau marketing, ils l'appellent. Ils s'assument en tant que fromage végétal.
Oui, il y a peut-être des astuces, genre préparation fromagère ou des choses comme ça. Mais normalement, même préparation fromagère, pour moi, ça devrait contenir du fromage.
Je crois que les vrais fromages s'achètent au rayon crèmerie de la distribution ou chez un crémier fromager.
Ouais. Oui, alors, les crémiers fromagers, justement, Dominique Chambon, c'est vrai qu'on en trouve de moins en moins, notamment dans les grandes villes. Bon, pourtant, même si la consommation de produits laitiers, elle a tendance à baisser un petit peu, elle se maintient quand même pas mal. Est-ce qu'il y a eu un réel transfert des habitudes d'achat dans la grande distribution? Et est-ce que ça a joué sur la qualité moyenne des produits à ce niveau-là?
Ben écoutez, je crois que c'est un mouvement de fond qui est en train de s'initier et qui dure depuis déjà quelques années, où justement nos produits d'appellation d'origine sont de plus en plus vendus en crèmerie. Et on se rend compte que déjà, il y a quand même pas mal de crémiers fromagers qui ouvrent dans les grandes villes, mais aussi en province, et qui développent une gamme de produits AOP et qui tirent finalement les volumes et qui reprennent des parts de marché à la grande distribution. Et c'est assez réjouissant pour nos producteurs parce que ces gens-là sont en mesure de parler de nos produits, d'expliquer comment travaille le producteur, etc. Ils sont des bons vecteurs de communication vis-à-vis du consommateur.
Oui, et bien l'artisan crémier, en général, il connaît le producteur, il a discuté avec lui, il s'est même parfois déplacé pour aller le voir. Donc c'est vrai qu'il peut défendre le travail du producteur.
Tout à fait.
Alors, quelle est la part de l'exportation en France aujourd'hui, Dominique Chambon? Parce qu'il y a... Allez-y.
On exporte du fromage au lait cru. On exporte beaucoup aujourd'hui. Ça fait partie des outils économiques importants pour la filière agricole française. Alors, tous les fromages ne sont pas exportés à la même hauteur, mais on parlait tout à l'heure du Comté, je ne vais pas citer de chiffres parce que je ne suis pas sûr de moi, mais ils sont très, très présents à l'export et pas qu'en Europe.
C'est la semaine des produits laitiers, donc la semaine prochaine, on continuera à parler du programme puisque vous aurez la possibilité de vous rendre au parvis de l'hôtel de ville de Paris. Vous restez avec nous également, OL Jégo, sur ce plateau. Et tout à l'heure, Manu nous donnera des recettes. On parle des produits laitiers jusqu'à 13h sur Beurre FM.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Dessus de table, l'émission qui mange le morceau, consacrée aujourd'hui aux produits laitiers, au fromage, avec sur ce plateau OL Jégo. Vous venez d'ouvrir Lactem, et en matière de cuisine, c'est vrai que la simplicité, ça a du bon.
Oui, j'ai été éduquée comme ça, avec la simplicité, mais le bon produit, le produit de base qui est cuisiné avec amour, mais avec simplicité. Voilà, on n'est pas dans la complexité et le sophistiqué chez moi, non, je ne connais pas.
Dominique Chambon est avec nous également, président de l'AOP Rocamadour, et vous êtes également le président du CNAOL, le Conseil National des Appellations d'Origine Laitière. C'est la fête des produits laitiers AOP la semaine prochaine à Paris du 16 au 18 novembre. Est-ce que les Français connaissent bien les AOP en termes de fromage, par exemple?
Bon, je crois que oui, il y a une bonne connaissance grâce justement au logo qu'on a évoqué tout à l'heure, à ce fameux logo rouge et jaune qui identifie bien les produits. Je crois que les produits AOP sont connus. On sait que 93% des Français consomment des beurres et des fromages et des crèmes AOP. Donc on peut dire effectivement que c'est un label de confiance que les consommateurs reconnaissent.
Et tous ces fromages qu'on mange facilement, boursin, on évoquait le caprice des dieux, la vache qui rit, bon, c'est du fromage ou pas?
Bien sûr que c'est du fromage, ils n'ont pas le caractère traditionnel et historique que peuvent revêtir, ils n'ont pas de lien au terroir, c'est des produits qui sont issus de l'imagination des fromagers, mais qui sont différents, qui n'ont pas leurs racines sur les terroirs, comme le peuvent l'avoir les produits d'AOP.
Alors, on parlait des fromagers tout à l'heure. Il y a quand même une nouvelle génération qui arrive sur le terrain. Une fromagerie, ça a beaucoup changé aujourd'hui. C'est devenu très design. Ils ont une façon d'aborder les choses complètement différente.
Un petit peu, oui. Ça se veut moderne, quelque part.
Ouais.
Des produits traditionnels, effectivement, il y a une certaine modernité qui a été introduite chez les crémiers. Et puis, je le répète, je crois qu'on va chez le crémier peut-être plus facilement qu'autrefois pour bâtir un plateau de fromage de fête, etc. Et là, on a effectivement recours à des produits d'appellation d'origine. Et le crémier est à même de vous conseiller et de vous permettre d'élaborer un plateau original.
Alors,
on va ravir les papilles de vos invités.
Ok, alors on vous dit fromager, vous nous répondez crémier. La vraie dénomination du marchand de fromage, c'est un crémier, c'est ça?
Crémier fromager, je crois que c'est ce qui...
D'accord, oui, c'est le terme adéquat.
Oui, tout à fait. Ils vendent à la fois des crèmes, des beurres et des fromages. Ils sont aussi quelquefois un petit peu affineurs, puisqu'ils apportent une touche, pour certaines, une touche personnelle au produit.
Oui, alors parce que ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'un fromage qui vient de chez un même producteur, selon le crémier fromager pardon, chez lequel on l'achète, il peut avoir des goûts très différents du fait du travail du crémier en aval.
Tout à fait, je ne dirais pas très différent, parce qu'il reste quand même attaché au producteur et je dirais à son terroir d'origine. Mais bien sûr, déjà, l'affinage plus ou moins poussé confère au produit des saveurs diverses. C'est ce qui fait d'ailleurs toute la richesse du plateau de fromage français.
Alors pour les auditeurs, ça consiste en quoi l'affinage exactement?
L'affinage, c'est les soins qui sont apportés au produit pour qu'il développe tous les arômes et toute la texture qui au cours du vieillissement du produit, il y a un certain nombre de ferments, de bactéries qui transforment les matières protéiques du fromage pour effectivement le transformer en saveur, j'aurais envie de vous dire.
D'accord.
La semaine prochaine, sur le parvis de l'Hôtel de Ville, hein, ça va être l'occasion notamment de goûter ces AOP. Mais pour ceux qui nous écoutent, pour faire un plateau de fromage étonnant, qu'est-ce que vous conseillez, vous?
Ouais, mais je pense qu'il faut déjà utiliser la grande panoplie que nous avons, avec déjà les trois espèces. D'ailleurs, en France, il y a trois espèces, les chèvres, les brebis et les vaches qui produisent du fromage. Et ensuite, il y a toute une diversité de technologies. Il y a des produits lactiques, comme le rocamado, par exemple. Ensuite, vous avez des pâtes pressées cuites, des pâtes pressées non cuites, le cantal, le comté, pâtes pressées cuites. Ensuite, il y a les bleus.
D'accord, mais si on voulait s'étonner ce week-end, on dit, tiens, ce week-end, changeons de saveur, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'étonner?
Si vous voulez surprendre vos invités demain midi au déjeuner, qu'est-ce que vous leur mettez sur le plateau? Quatre fromages, on va dire.
Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit tout de suite, parce que c'est un fromage qui est un peu saisonnalisé, je dirais, c'est le Mont d'Or. Et que souvent, on connaît peu. Le Mont d'Or, c'est une grande appellation d'origine française, originaire du massif du Jura. Et c'est un produit qui est fabriqué à partir des laits de foin. Donc, en général, on démarre à la fabrication de ces produits en fin d'été et pendant tout l'hiver. Donc c'est un produit que moi j'aime bien mettre sur mon plateau pendant l'hiver.
On peut presque le boire à la paille, le Mont d'Or, non?
Ah, je dis à la cuillère.
Oui, à la cuillère, oui.
C'est le vacherin, en fait, le Mont d'Or.
C'est le vacherin.
Je rajouterai le carré d'Aurillac. Hein.
Alors oui.
Je rajouterai vraiment avec conviction un carré d'Aurillac. Je ne sais pas si... Il y a peu de personnes qui connaissent, mais il y en a beaucoup qui sont... qui sont vraiment surpris par le goût. En fait, c'est un fromage bleu qui paraît fort, mais qui est tellement doux, en fait, et doux et crémeux une fois dans la bouche, que ça, c'est incroyable. Et sur mon plateau de fromage, tant que j'y suis, je rajouterai aussi du miel à la truffe pour accompagner n'importe quel fromage. Ça passe avec tout, en fait. C'est incroyable. Voilà.
Du miel à la truffe, tout à fait.
Allez, un dernier pour la route, Dominique Chambon, pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être...
Ça, le rocamadour, on vous le met d'office, hein, quand même.
Bien sûr, il est d'office. Sur mon plateau, en tout cas. Mais après, on peut prendre un fromage de brebis, hein, que ce soit un roquefort ou un osso irati. Je crois que le roquefort, qui est aussi un fromage bleu. Donc, si on veut changer un petit peu, pour compléter, on peut choisir un osso irati, qui est une pâte pressée du Pays Basque, et de la vallée d'Osso, qui a des arômes très très puissants.
Oui, qui revient à la mode, l'Osso irati. D'ailleurs, ils font pas mal de communication en ce moment, ils essayent de relancer vraiment l'AOP.
C'est un vieux fromage du 14e, ça.
Oui, c'est très ancien.
Le 14e siècle, hein, pas du 14e arrondissement.
Arrondissement, oui.
Le prince du fromage mérite sa place aussi sur le plateau, qui est le Saint-Nectaire.
Ah oui, c'est très beau, c'est
un nectaire.
Je pense que c'est un peu l'inévitable sur un plateau, non?
Ah oui, tout à fait. Moi, je suis toujours embarrassé. J'ai pas de plateau assez grand pour mettre tous les produits que je voudrais présenter à mes convives.
En tous les cas, la semaine prochaine, à l'Hôtel de Ville, le plateau sera grand.
Tout à fait. Et on a la chance d'avoir un patrimoine très diversifié. Et il faut à tout prix le faire connaître, le faire partager à nos consommateurs. Et c'est l'objectif de cette manifestation du week-end prochain, où tous les producteurs, j'allais dire de France et de Navarre, seront là pour présenter aux consommateurs parisiens ces produits, les offrir à la dégustation. Ils pourront bien sûr, les consommateurs pourront aussi en acheter pour déguster chez eux. Et puis découvrir un petit peu en profondeur chaque terroir et chaque savoir-faire, puisqu'il y aura des démonstrations de fabrication. Et ils pourront interroger les producteurs qui sont là. Je pense qu'ils se feront plaisir de leur parler de leur métier, de leur travail, de leur savoir-faire.
Alors, Manu, pardon, je vous coupe, Manu, je voulais que vous donniez une recette avant de terminer cette émission.
Ah, alors, je vais donner une recette avec du rocamadour, alors, hein, pour faire honneur à notre invité téléphonique.
Hein.
C'est une recette, d'ailleurs, je me suis inspiré d'une recette du site de l'AOP Rocamadour, que j'ai un peu revisité à ma sauce. Ce sont des croustillants de rocamadour avec un chutney de fruits secs. Alors, pour 4 personnes, il faut 4 rocamadour, 20 centilitres de crème liquide, 40 g de figues séchées, 40 g d'abricots séchés, 40 g de pistaches hachées, 40 g d'amandes hachées, 20 g de raisins secs, 30 g de miel, 4 feuilles de brique, du vinaigre de cidre, de la cannelle et de l'huile de noisette. Alors d'abord, on prépare un chutney, c'est-à-dire qu'on hache les figues, les abricots, les raisins secs. On les fait sauter au beurre avec un bon beurre AOP, évidemment. Hein. On ajoute un trait de miel, quelques pincées de cannelle, les amandes et les pistaches hachées. Et on laisse compoter, c'est-à-dire qu'on laisse, on laisse cuire de manière à ce que ça fasse une espèce de marmelade. Et puis ensuite, on coupe les feuilles de brique en deux. On coupe les rocamadours en deux dans l'épaisseur, puis en deux dans la largeur. Et on les farcit avec le chutney. On roule tout ça dans les moitiés de feuilles de brique. Et on fait dorer ces croustillants à la poêle dans un mélange de beurre et d'huile d'olive. On fait fondre le miel restant dans une poêle. On ajoute une cuillère de vinaigre de cidre. On laisse réduire. Ensuite, on monte la crème liquide comme si on faisait une chantilly. Donc, il faut qu'elle soit bien froide. Alors, comme une chantilly, mais sans sucre, hein, évidemment. Mmh. On ajoute un trait d'huile de noisette, hein, du sel, du poivre pour aromatiser cette crème. Puis, on dépose les croustillants dans une assiette. On met une belle cuillerée de crème à l'huile de noisette. Et on arrose avec un trait de miel fondu au vinaigre de cidre. Je vous mettrai cette recette sur le site de Beurre FM dès demain. Vous pourrez ainsi avoir tous les ingrédients et le déroulé de la recette.
OL Diego, vous voulez dire quelque chose?
Oui, bah du coup cette recette m'a déstabilisée. Je comprends.
Bon, les
vous vouliez dire que vous allez faire un plat du jour demain avec cette recette, c'est ça?
Voilà, exactement.
Je vous la donnerai aussi.
Mais pour moi personnellement, parce que.
Ah d'accord.
Je suis fermée le dimanche.
Bien, les beurres AOP, donc Charente-Poitou, Digny, et puis les beurres de Bresse, c'est ça?
De Bresse, oui, absolument. Les beurres et crèmes de Bresse qui sont également AOP. On rappelle peut-être l'adresse du restaurant Lactem d'OL Jégo, 58 rue du Faubourg-Montmartre, Paris 9e. Vous êtes ouvert, vous pouvez aller sur le site internet aussi, www.lactem.café. Vos jours de fermeture, OL?
Le dimanche lundi. Et je suis ouverte de mardi à samedi. Mardi à vendredi de 7h30 à 17h30 et le samedi de 10h30 à 18h.
Très bien.
Merci.
Bien, Dominique Chambon, on peut venir avec les enfants au parvis de l'hôtel de ville. C'est gratuit, il faut le préciser hein, pour ceux qui nous écoutent. Et il y aura des dégustations pour les enfants. C'est peut-être aussi l'occasion de les initier au fromage.
Bien sûr, oui, oui. Une occasion à pas manquer pour effectivement leur faire découvrir la grande diversité des fromages. Et puis... La richesse aussi des terroirs de France, je crois que ce sera aussi une invitation à venir les découvrir au cours des vacances.
Alors Manu, une initiative?
Oui, alors parce qu'on parlait justement des crémiers fromagers avec notre invité téléphonique à l'instant, Dominique Chambon, c'est une initiative qui s'appelle Tentation Fromage. Alors Tentation Fromage, c'est un site internet qui vend du fromage, mais en fait qui ne vend rien, puisque ce sont des fromagers qui se sont référencés. Alors le référencement est fait de façon assez sérieuse, hein. Les fromagers sont sélectionnés, ça doit être des vrais artisans qui ont une vraie offre de fromage bien sourcée. Et puis on commande... sur ce site un plateau de fromage ou des fromages à la coupe, à l'unité, et soit on se les fait livrer à la maison, soit on peut aller les chercher chez son fromager, donc c'est du click and collect comme on appelle ça aujourd'hui, et c'est une initiative qui était quand même que j'ai trouvé assez sympathique, parce que ça permet effectivement de renouer un peu le lien entre les consommateurs et les crémiers fromagers, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui une trop importante part des fromages se vend en grande distribution. Donc je donne quand même l'adresse du site internet. Hein, c'est Tentation. Vous allez sur Google, vous tapez Tentation fromage, vous le trouvez et vous pouvez donc tout commander en ligne.
Merci OL Jégo d'avoir été avec nous sur ce plateau ce matin. Merci à Dominique Chambon. On vous donne Merci. Rendez-vous demain, Manu, à 9h-10h pour Avis de sortie.
Oui, on va
tout savoir
demain.
Sur les sorties de la semaine prochaine. Restez bien sur Beurre FM. À bientôt.
Retrouvez Dessus de table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.